Bonjour à tous. Fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. C'est le psaume 25, 4. Alors ce matin, on va laisser le Seigneur nous faire connaître ses voies, nous enseigner ses sentiers. Et je te prie, mon Dieu, que nous puissions ainsi être transformés par les voies que tu vas nous enseigner, des sentiers que tu vas nous montrer. Merci Saint-Esprit encore de préparer chaque cœur à te recevoir, mon Dieu, afin que chacun soit transformé par ta parole, parce que ta parole est vraiment l'outil de transformation que tu utilises afin de nous amener de plus en plus à toi. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je vais poursuivre, je suis dans une démarche de poursuite. Je vais poursuivre ce qu'on a commencé, voilà déjà bien longtemps. Et là, je vais aborder le sixième partage, un thème que j'avais commencé, voilà maintenant bientôt un an, qui était sur les fondements de la foi chrétienne. On va poursuivre. Alors avant de poursuivre, parce qu'un an, c'est long, donc comme là, on rentre dans une nouvelle année scolaire, c'est pas qu'on soit à l'école, hein. Enfin, ça ressemble quand même, hein. Voici quelques rappels, en quelques minutes. Nous avons partagé le premier fondement, qui est dans le fondement principal, le point de départ de notre foi chrétienne. Quel est le point de départ, le fondement de notre foi? Vous vous rappelez? C'est Jésus. Jésus, parole de Dieu. C'est bien le fondement de notre foi chrétienne. En effet, que dit la parole? La parole dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17, c'est le point de départ. La foi s'appuie donc sur rien d'autre que sur Christ et la parole de Dieu. Promesse, commandement, exhortation, encouragement, etc. Jésus ne dit-il pas, si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que j'ai dit. On a Jésus qui dit, si quelqu'un m'aime, il mettra quoi? En pratique ce que j'ai dit. Donc Christ et la parole. C'est le fondement principal. Alors, vous aimez Jésus? Oui? C'est bien. Vous aimez Jésus?
Oui.
Alléluia. Alors oui, aimer Jésus et l'écoute et la mise en pratique de sa parole est bien le premier fondement de notre nouvelle vie. Ce n'est pas une option, c'est toute notre vie qui en dépend. Amen. Et donc Paul le rappelle dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé. » Le point de départ, c'est Jésus. Notre deuxième partage concernait la première exhortation que Jésus a donnée comme point de départ incontournable du salut au début de son ministère public. Vous vous rappelez? Ça a aussi été le message de Jean-Baptiste et le premier enseignement public de Pierre. Pierre disait, il est dit à propos de Jésus, « Dès ce moment, après le désert, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, changez d'attitude, selon notre version, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, 17. Donc ce deuxième fondement, il s'agit bien donc de la repentance, le fondement incontournable qui nous amène au salut. Et nous avions partagé sur ce qu'est la vraie repentance, autrement dit, tourner délibérément le dos au péché et se soumettre à Dieu. Ça, c'est le fondement de la vraie repentance. Ce qui a été aussi l'objet de notre troisième partage, en nous appuyant sur cette exhortation que Jésus dit à la femme adultère, vous vous souvenez? Que dit Jésus à la femme adultère après l'avoir arrachée de la mort? va et désormais ne pêche plus. Ainsi, bien plus qu'une recommandation, après l'avoir sauvé de la mort, Jésus lui ordonne avec autorité de ne plus vivre de la même façon. Va et dorénavant ne pêche plus. Et vous remarquerez que elle n'a pas dit oui, mais ça va être difficile. Non, elle n'a pas discuté. Alors c'est vrai que, et c'était l'objet de notre quatrième partage, la barre est haute. Va et ne pêche plus, la barre est haute. Il y aura lutte, forcément, mais certainement victoire. Comme Paul le promet, car, dit-il, le péché ne dominera pas sur vous. Romains 6, 14. Si toutefois, nous avons décidé de ne pas le laisser dominer. Et en cela, nous ne sommes pas seuls, car Paul nous affirme, et on l'avait répété plusieurs fois à l'époque, Paul nous affirme que la puissance vivifiante de l'esprit nous soulève hors du cercle vicieux du péché. Romains 8, 2. La puissance vivifiante de l'esprit nous soulève hors du cercle vicieux du péché. On n'est pas tout seul. Le Saint-Esprit est avec nous. Et pour terminer, nous avons vu au cinquième partage comment résister pratiquement au péché. Partageant à ce sujet, et je résume là-dessus, partageant à ce sujet quelques exhortations fortes du psalmiste, dont celle-ci, « Vous qui aimez l'Éternel, que dit le psalmiste, ayez le péché en horreur. » En effet, à quelqu'un qui nous aime et que l'on dit aimer, lui fait-on subir ce qu'il déteste? Oui? Ah ben non. Ah ben non. Donc ça me semble, rien que cette pensée, ça doit déjà nous aider à nous écarter du péché et à résister. Le fait d'aimer notre Seigneur et, vu qu'il déteste le péché, de ne pas lui faire quelque chose, lui faire subir quelque chose qu'il déteste. Rien que ça, déjà, ça doit tout, ça doit tilter. Mais aussi, parole du psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur. Ça veut dire quoi ça? Je la recherche. J'en fais le centre, le cœur de ma vie. Je m'y accroche. Afin de quoi? De ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Psaume 119, verset 11. Et c'est bien sur ces bases, aimer Dieu et serrer sa parole dans nos cœurs, que le Saint-Esprit peut alors nous soulever hors du cercle vicieux du péché. Si on ne s'appuie pas sur ces deux fondements, aimer Dieu, serrer sa parole dans nos cœurs, le Saint-Esprit ne pourra pas nous soulever hors du cercle vicieux du péché. Donc ces deux fondements, c'est du solide. Alors ce matin, je vais poursuivre à propos des deux sceaux S-C-E-A-U-X, inscrits sur les fondations de l'Église, que nous avions déjà abordés. C'est Paul qui dit à Timothée, dans le contexte d'un rappel à servir la vérité, Dieu a pourtant lui-même posé les fondations de son édifice, l'Église, et elle reste inébranlable. Pourtant, la Bible française courante dit, gravée de part et d'autre en guise de sceau, les inscriptions suivantes. Donc, on parle bien des fondations de l'Église qui sont inébranlables et gravées de chaque côté, de part et d'autre, en guise de sceau, l'inscription suivante. Donc, c'est du sérieux. Premier sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le premier sceau. le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ici, il est bien question de l'Église, dont des pierres vivantes scellées aux fondations. C'est nous. Église dans laquelle pourtant, comme Paul nous met en garde, notamment dans Romains 16, Colossiens 2, Éphésiens 5, etc., il s'est mêlé de fausses pierres ressemblant aux vraies. C'est pour ça donc que sur les fondations, il est mis, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il les connaît. Il connaît celles aussi celles qui sont là, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux vraies, mais qui ne lui appartiennent pas. Et d'ailleurs, au sujet de ces fausses pierres, Jésus nous rappelle dans Matthieu 7, 21, que les vraies pierres sont celles qui obéissent à son Père. Matthieu 7, 21. Vous le relirez chez vous. On l'avait déjà lu ensemble. Deuxième sceau. Qu'ils se détournent du mal, donc de l'iniquité, du péché, de la désobéissance, etc. Celui qui affirme appartenir au Seigneur. 2 Timothée 2, 19, dans la version Sommeur. Donc on se rend compte tout de même qu'au travers de ce que Dieu nous dit dans cette parole, il ne nous cache rien. Les sceaux sont gravés dans les fondations. C'est tout de même extraordinaire, ça, non ? Vous ne trouvez pas ? Et c'est gravé sur les fondations de l'Église, à nos pieds, pour que nous nous le rappelions en permanence. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, qu'il se détourne du mal, celui qui affirme appartenir au Seigneur. Ainsi, pour celles et ceux qui affirment appartenir au Seigneur, il nous exhorte à se détourner du péché. À noter que c'est là encore aussi le sens profond de la vraie repentance. Non ? Détournez-vous du péché. Alors, si j'affirme appartenir au Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Je me détourne du péché. Parce que j'aime Dieu, je sais qu'il déteste le péché, je serre sa parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Donc je m'appuie sur sa parole, je médite sa parole. Voilà, je regarde ce qu'il aime, ce qu'il attend de moi, voilà, afin de ne pas pécher. Et curieusement, ce sont ces mêmes paroles d'appartenance que Paul va utiliser lorsqu'il parlera du retour de Jésus. Événement qui dépasse de loin toutes les étapes majeures de notre vie, non ? Ça dépasse de loin notre mariage, le premier enfant, le premier emploi, etc., etc. Le retour de Jésus. Vous imaginez ? Et cette parole de Paul, c'est cette résurrection aura lieu dans un ordre bien déterminé, le Christ d'abord, comme le premier fruit de la moisson, ce qui a eu lieu voilà 2000 ans, ensuite, au moment de son avènement, son retour, ressusciteront qui ? Ceux qui lui appartiennent. 1 Corinthiens 15, 23, dans la parole vivante. Vous remarquerez, hein, que ce principe biblique d'appartenance à Christ est ici exprimé aux deux extrémités de la vie d'Église. Il est gravé dès la naissance de l'Église comme condition d'appartenance à l'Église. Et également, il est rappelé de façon forte au moment où nous serons enlevés, à la fin de la vie de l'Église. C'est pleinement réaffirmé au moment de l'enlèvement de l'Église, comme condition donc de ceux qui seront enlevés. C'est quelque chose quand même. Hein. Ces mots, c'est quelque chose de fort. Hein. Si le Seigneur se permet de le citer tant au début de la vie d'Église qu'à la fin de la vie d'Église, c'est pas pour rien. Mais avant de poursuivre, quelques minutes sur ce retour de Christ. Qu'en dit Paul ? Nous qui sommes citoyens du royaume des cieux, de là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur, Jésus-Christ, pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux. Philippiens 3, 20-21, la version Sommer. Donc vous direz bien, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Pour nous sauver. On n'est pas déjà sauvés ? Non ? Eh oui. Dans le sens, c'est pour nous sauver ici, dans le sens d'achever l'œuvre de salut en nous. En effet, tout comme l'œuvre de Jésus sur la croix n'est pas complète tant que sa résurrection n'avait pas eu lieu, notre salut n'est pas complet tant que nous n'aurons pas reçu notre corps ressuscité qui sera le couronnement de notre salut. L'œuvre de Christ a été complète lorsque a eu lieu sa résurrection. Eh bien, nous aussi, notre œuvre, l'œuvre de salut, sera complète au moment de notre résurrection. Alors Jésus nous dit, pour ce jour, et pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni les cieux, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et ils ne se doutèrent de rien. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 36, 39. Donc le retour de Jésus va arriver n'importe quand. Maintenant, dans un an, 10 ans, 30 ans, on ne sait pas. Donc ce qui nécessite de se tenir toujours prêt. Mais y croyons-nous vraiment ? Sommes-nous vraiment dans cette attente ? Et à la fin de ce passage, Jésus dit, alors, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Savez-vous quel jour le Seigneur viendra ? Personne ne le sait. Et il viendra de façon surprenante, on ne se doutera de rien. Aujourd'hui, pourtant, les signes parlent et nous amènent à nous tenir prêts. Et c'est la suite de Matthieu 24 que vous pourrez lire chez vous. Et comme Jésus, Pierre nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous, une autre version dit, faites tous vos efforts, à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables dans la paix. 2 Pierre 3, 12, 14. Puisqu'on ne sait pas quand, appliquez-vous et attendez ces choses en restant en permanence, sans tache et irréprochables dans la paix, pour être trouvés ainsi lorsque ce jour viendra. Et ce jour, comme les vierges sages qui étaient prêtes, vous rappelez de la parabole des vierges sages ? Oui ? Il y avait aussi les folles, mais on ne va parler que des sages. Comme les vierges sages qui étaient prêtes, c'est-à-dire sans tache et irréprochables, c'était ça être prête, hein, ressusciteront ceux qui lui appartiennent. Alors serons-nous de cela ? Ce jour qui, selon Paul, viendra comme un voleur, 1 Timothée 5,2. D'où l'importance de s'arrêter quelques instants sur le sens profond de ceux qui lui appartiennent. Et je commencerai par cette parole que Paul adresse aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus ou point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. On ne peut pas être plus clair. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Waouh, C'est écrit, hein ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Votre corps, votre esprit appartiennent maintenant à Dieu. Donc ces notions d'appartenir, d'appartenance, sont tout de même importantes. Hein ? Et notez la répétition du verbe appartenir. Que dit Paul ? Il dit, né de nouveau, notre corps et notre esprit ne nous appartiennent plus. Ils appartiennent à qui ? À Dieu. Est-ce qu'on mesure bien cela ? Notre corps appartient à Dieu jusqu'au moment où il le ressuscitera, comme il a ressuscité celui de Jésus, notre modèle, notre référence. Alors aujourd'hui, pour quelle raison on ne s'appartient plus, à votre avis ? Nous avons été rachetés. Quelqu'un nous a rachetés. Et lorsque nous avons été rachetés par quelqu'un d'autre, on ne s'appartient plus. Logique, non ? Un entrepreneur qui rachète une entreprise, l'entreprise n'appartient plus à l'ancien propriétaire, elle appartient au nouveau. Racheté. Christ nous a rachetés, nous appartenons aujourd'hui à celui qui nous a rachetés. Comment a-t-il payé ? Avec son sang. Alors si nous avons été rachetés par Jésus, nous lui appartenons. Et on ne peut pas à la fois s'appartenir ou appartenir encore à notre ancien propriétaire et en même temps appartenir au nouveau qu'est Jésus. Non ? Est-ce possible ça ? C'est ainsi donc que par la foi dans le sang de Jésus, nous avons été retirés du domaine régi par l'autorité de Satan, le monde, pour être transférés en totalité, ou donc, dans le royaume de Dieu. On est passé du domaine régi par l'adversaire, le monde, et transféré dans le royaume de Dieu. Voilà ce que Jésus a fait en nous rachetant. On a bien conscience de cela ? Et Jésus dit, nul ne peut servir, appartenir à deux maîtres. Tout le monde a lu ça. Matthieu 6, 24, c'est le fameux sermon sur la montagne. Ce sermon sur la montagne, relisez-le, re-relisez-le, re-re-re-relisez-le. Parce que c'est vraiment le sermon fondateur du ministère de Jésus. Et à ce sujet, donc, au sujet de nul ne peut servir deux maîtres à la fois, donc nul ne peut appartenir à deux maîtres à la fois. Ça veut dire ça. À ce sujet, quelqu'un a dit, si Christ n'est pas notre Seigneur en tout, il n'est pas notre Seigneur du tout. C'est fort comme parole, mais c'est exactement ce que Jésus dit quand il dit, nul ne peut servir, appartenir à deux maîtres. En effet, toutes les facettes de notre vie lui appartiennent. Toutes. On ne peut pas affirmer appartenir à Christ et continuer à faire ce qui nous semble bon. Relisez Juges 21, verset 25, où chacun faisait quoi ? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et vous verrez toutes les conséquences néfastes que ça a eues. On ne peut pas affirmer appartenir à Christ et continuer à faire ce qui nous semble bon. Alors si nous avons accepté d'être rachetés par le sang de Jésus, c'est bien notre cas ? Alors nous lui appartenons totalement. Nous ne pouvons pas conserver en nous volontairement des zones de possession personnelle. En effet, comme Paul nous le rappelle dans ce que nous venons de lire, nous qui avons accepté d'appartenir à Christ, il nous a fait devenir le temple du Saint-Esprit, ce qui est à la fois une grâce, une bénédiction, une confiance immense que Dieu nous fait quand même. Fallait qu'il ait confiance en nous, non ? Mais également une grande responsabilité de notre part. Est-ce qu'on se rend bien compte que nous sommes maintenant la résidence du Saint-Esprit ? Nous sommes la résidence du Saint-Esprit. Quelle grâce de Dieu. Moi, ça m'émerveille. Hein. Quand le matin, je me lève en disant, je suis la résidence du Saint-Esprit. Waouh, waouh. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là, présent en moi. Merci, parce qu'à tout moment, je sais que tu seras là pour m'interpeller quand il le faut. Parce que tu es là tout près de moi. Si je suis amené à dévier à droite ou à gauche, je sais que tu seras là pour m'interpeller, pour m'éviter de franchir les limites, afin que je reste dans tes limites, celles que tu as fixées pour ma vie. Tu seras là. Rends-moi sensible, Seigneur, chaque jour à ton Saint-Esprit. De plus en plus sensible, car mon désir le plus profond, c'est de rester, mon Dieu, dans tes voies. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Alors si on a bien saisi cela, ça nous oblige à refléter fidèlement Christ autour de nous. Eh oui, eh oui. Pas un mélange du monde et de Christ. Quand on mélange un petit peu de peinture noire dans un seau de peinture blanche, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du gris. Alors donc, soyons un fidèle reflet de Christ. Soyons cette peinture blanche, immaculée. Reflétons ceci autour de nous. Comment? Ben écoutez ce que Paul dit. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice de sa volonté, dit la parole vivante. Romains 6, 13. C'est ce que dit Paul pour refléter Christ. Ça veut dire quoi, ça? Ben que les membres de notre corps, et je le répète, nous appartenons à Dieu, donc nos membres lui appartiennent, les membres de notre corps, dont la langue fait partie, hein, sont destinés à être les instruments que Dieu veut utiliser. Nos membres lui appartiennent, depuis que nous avons été rachetés. Et Paul nous exhorte à rester dans cette appartenance jusqu'au retour de Jésus, en retenant et en vivant l'évangile que nous avons reçu, tel que nous a été annoncé. Et il nous dit en effet, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme, auquel vous êtes fermement attaché. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Et la Français courant dit, sur la voie du salut. Jusqu'à son retour. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. Waouh ! Vous auriez cru inutilement. Donc nous sommes invités là à retenir l'évangile tel qu'il nous a été annoncé, sinon nous aurions cru inutilement. Et Paul poursuit dans ce long chapitre, 1 Corinthiens 15, là c'était verset 1 à 2, en rappelant que le chemin du salut, depuis la croix, il le prend depuis la croix, donc depuis l'origine de notre rachat, jusqu'à la résurrection, couronnement de notre salut, et il termine par « Ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. » Le chapitre 15 commence par ça, et il se termine par « Ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, il n'oublie pas les sœurs, soyez fermes et inébranlables. » Alors si donc on analyse le cheminement de ceux qui ont été rachetés, il nous dit, vous qui maintenant appartenez à Christ, rappelez-vous bien. Et c'est la conséquence de votre appartenance, rappelez-vous bien. Rappelez-vous l'évangile que vous avez reçu. Alors en quelques mots, quand on parle de l'évangile qu'on a reçu, c'est quoi? Ça veut dire quoi recevoir l'évangile? Recevoir l'évangile, ben, ce n'est pas seulement formuler une prière dans laquelle on demande à Jésus de venir dans notre cœur. Ce n'est pas simplement ça. C'est rechercher, écouter et vivre la plénitude de ses paroles. C'est ça, recevoir l'Évangile. Recevoir véritablement Jésus, c'est aussi le recevoir comme le seul chemin du salut. Il n'y en a plus un d'autre. Je suis le chemin, dit Jésus, la vérité et la vie, nulle ne vient au Père que par moi. Recevoir l'évangile, c'est mépriser le péché au point de le détester comme Dieu le déteste. On l'a vu tout à l'heure, ça. Et de s'en détourner. Recevoir l'évangile, c'est faire en premier confiance à la parole de Dieu. Sans rajouter de oui mais. Allez, oui mais. En prétextant que ce que l'on voit ou ressent est différent de ce que Dieu dit. Qu'est-ce qui est vrai ? Ce que Dieu dit ou ce que je vois ou ressens ? Et souvent, derrière la parole, combien de fois j'entends dire « oui mais ». Alors, la personne lit la parole, comment dire, cite la parole. Oui, mais. Le oui, mais est trop. Remplaçons les oui, mais par des oui, amen. Oui, amen. Si petit à petit on arrive à remplacer le oui, mais par un oui, amen, déjà on aura fait un pas immense. C'est aussi ce que celui qui affirme appartenir à Jésus ne reçoit pas l'évangile en plus de sa vie passée. Quand on reçoit l'évangile, ça n'est pas en plus de sa vie passée, mais en lieu et place de notre vie passée. Recevoir l'un, c'est perdre l'autre. Et c'est ce que Jésus dit, car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et l'évangile, la sauvera. Marc 8, 34-35, version Darby. L'évangile n'est donc pas un petit accessoire qui habille notre vie pour la rendre meilleure. Ce n'est pas un accessoire. Ce n'est pas non plus une simple cerise sur le gâteau de notre vie. En recevant l'évangile, le Christ devient notre vie. Nous lui appartenons. Car nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres pour être transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1,13. Et j'ai été racheté à un grand prix, donc maintenant, j'appartiens à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20. Appartenir à Dieu, c'est tout ça. Alors peut-être que les signes extérieurs ne sont pas éclatants dès l'instant de notre conversion. Pas de crainte, si tant est que notre conversion est réelle et profonde. Car si nous mesurons bien par qui, c'est-à-dire Jésus, et le prix, son sang, auquel nous avons été rachetés, et à qui nous appartenons, Jésus, et que nous laissons agir en nous l'esprit que nous avons reçu de Dieu, les signes de notre vie, dans notre vie deviendront rapidement manifestes. Car dans ce cas, ces paroles sont pour nous, j'ai été racheté à un grand prix, j'appartiens à Dieu, et Christ connaît ceux qui lui appartiennent. Vous savez, comme Dieu, Jésus nous aime jalousement. Jaloux. Comme Dieu, Jésus nous aime jalousement. Il nous veut. Mais il ne nous partagera jamais avec quelqu'un d'autre, ni avec le monde, ni avec l'ennemi de nos âmes. Jamais. C'est ainsi que, au moment de son retour, ressusciteront ceux qui lui appartiennent. Alors soyons, et je termine, soyons pleinement convaincus que Jésus ne nous cache rien. Soyons pleinement convaincus qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Il nous exhorte à prendre ses paroles au sérieux, notamment quand il dit qu'il ne veut pas une partie de notre vie, mais notre vie tout entière. Il nous invite à prendre ses paroles au sérieux. Il ne nous cache rien, il nous dit tout. Merci mon Dieu. Lorsqu'on arrivera vers lui, on ne pourra pas dire « Oh, je ne savais pas ». Rien ne nous est caché. Et sachons aussi, sont convaincus, que les choses se passeront exactement comme il les a annoncés. Car si Dieu est amour, il est aussi juste et ferme. Il ne reviendra jamais sur ce qu'il a annoncé. Même lorsqu'il nous annonce quelque chose qui nous semble dur, il ne reviendra jamais dessus. Son amour n'efface jamais sa justice. Son amour n'efface jamais sa fermeté. Son amour n'efface jamais ce qu'il a annoncé. Jamais, jamais, jamais. Son amour a été manifesté à la croix en ce qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà en quoi son amour a été manifesté. Alors que nous, qui sommes nés de nouveau, puissions proclamer ensemble, avec foi, en nous engageant à le vivre, on peut le proclamer ensemble, tout haut, si vous le voulez bien, que la salle résonne de cette proclamation. C'est une proclamation qu'on fait là. Hein. Ce n'est pas par les choses périssables que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Jésus. J'ai été racheté à un grand prix. J'appartiens à Dieu. Amen. Et nous terminerons ensemble par cette prière à laquelle Paul nous invite. Mais on va la terminer en la faisant nôtre. Nous rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, c'est-à-dire aux personnes qui lui appartiennent, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils, son amour. Nous rendons grâce au Père pour cela. Rendons grâce au Père. Nous avoir transportés dans le royaume du Fils, de son amour. Pour nous qui lui appartenons. Amen. Alors un seul mot d'ordre. Soyons de ceux que Jésus connaît, de ceux qui lui appartiennent, car le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Premier saut. Qu'il se détourne du mal, celui qui affirme lui appartenir. Deuxième saut. Et alors, apothéose extraordinaire, apothéose que nous attendons tous, ardemment, comme Pierre nous le rappelle. Quelle est cette apothéose ? Ressusciteront ceux qui lui appartiennent. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.